De retour aux amateurs de sport, l'Impact qui joue contre les Whitecaps de Vancouver ce soir, l'avant-match à 19h30. Mais à l'instant, nous accueillons avec grand plaisir Daniel Brière qui effectue son retour, sa rentrée aux amateurs de sport. Bonsoir Daniel.
Salut Mario, ça va bien?
Comment ça va, monsieur le président directeur général des Mariners du Maine, bien occupé avec ton équipe?
Oui, oui, c'est la dernière semaine avant que le monde du hockey décolle, on dirait toujours après la grande fin de semaine de septembre. Fait que c'est ma dernière semaine à relaxer un petit peu plus avant la prochaine saison, mais j'ai bien hâte que ça débute, puis je suis content de vous retrouver pour une autre saison.
Ben, c'est tout à fait partagé. Ça fait déjà pas loin. On a perdu le compte, Daniel, mais 4-5 saisons qu'on vit ensemble. Bien content bien content que ça se poursuive. Mais c'est drôle parce que je me fais pas l'idée que les Mariners du Maine s'est rendu un club de la Ligue de la Côte Est parce que du temps où j'étais plus jeune, dans le temps que la Ligue américaine était à Sherbrooke, quand les Mariners du Maine arrivaient, c'était un club de la Ligue américaine. Hey, je vais te dire une affaire, Daniel. Tu sais, il y en a eu de la bagarre à tous les niveaux, mais ces années-là, là, avec Dave Brown contre Stéphane Quintal, Stephen Fletcher, on en a vu de la bagarre. Stéphane Quintal, pas contre Dave Brown parce qu'il jouait pas pour l'équipe de Sherbrooke, mais lui contre Stephen Fletcher et plusieurs autres. Mais ça brassait dans ce temps-là encore.
Oui, ben on essaie de ramener ça un peu. Puis c'est drôle que tu mentionnes Dave Brown parce que justement, j'étais sur le terrain de golf plus tôt cet après-midi avec lui et Paul Holmgren. Fait que très drôle de coïncidence. Mais oui, écoute, Dave Brown, tout un caractère. Un très très bon monsieur qui travaille encore comme dépisteur pour les Flyers de Philadelphie.
Tu devais pas avoir peur de te faire attaquer avec Dave Brown et Paul Holmgren sur un terrain de golf. Remarque, c'est pas à place pour se faire attaquer, là.
C'est très très bien flanqué, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Écoute, c'est vraiment, tu sais, quand on parle souvent là ici là, à Philadelphie, on entend parler des joueurs disons les plus tough qui ont joué pour dans l'histoire des Flyers de Philadelphie. Puis je peux te dire que parmi le groupe de top 5, là, on entend souvent le nom de Dave Brown et Paul Holmgren revenir. Donc oui, j'étais très, très bien entouré aujourd'hui pour ma ronde de golf.
As-tu des anecdotes avec Dave Brown, cet ancien bagarreur de la Ligue nationale que tu côtoies donc de façon tout à fait amicale de nos jours?
Ouais, ben écoute, moi j'étais très jeune quand il jouait, j'ai pas eu la chance de le voir, j'ai vu quelques vidéos, mais moi ce que je retiens le plus de lui, quand j'étais joueur avec les Flyers, son bureau était à l'aréna de pratique des Flyers à Voorhees au New Jersey, puis ça me faisait toujours rire parce que quand on montait en haut, il y avait les bureaux des dépisteurs de Dave Brown, à chaque jour, il amenait ses petits chiens. Des Yorkshire, des petits Yorkies qui pèsent 4-5 livres chaque, il y en avait 3. Puis partout où il allait dans les bureaux, les petits Yorkies le suivaient partout. Fait que tu t'imagines ce gros joueur tough-là que tu voyais se battre là parmi avec les plus gros, les bagarreurs les plus dangereux de la nationale. Puis tu le voyais ensuite dans les bureaux avec ses petits chiens qui suivent partout. Ça me faisait bien rire, je trouvais ça très, très drôle.
Ben j'imagine, ça veut-tu dire que c'est un chien, toi t'es un gros Danois, un berger allemand, Daniel, non?
Pas encore, mais peut-être que ça m'irait mieux qu'un petit chien.
Entrons dans l'actualité hockey. Il y a un nom, on dirait, qui veut pas partir de l'actualité à Montréal. C'est l'ancien défenseur Andrei Markov, avec qui tu as joué. Ça fait 2 ans qu'il ne joue plus pour le Canadien. Son nom revient fréquemment dans l'actualité sportive. Il a laissé savoir à qui voulait l'entendre, qu'il voulait revenir dans la LNH. Idéalement, il serait revenu à Montréal. Il n'y a pas d'ouverture du côté du Canadien. Si tu étais dans les bottines de Marc Bergevin, tu serais-tu tenté de donner ce qu'on appelle un PTO, un essai professionnel, ou d'ouvrir ton esprit à l'idée de le ramener au sein de ton équipe où il n'y en est pas question? Ça serait vraiment un gros, gros retour en arrière?
Ben écoute, je serais définitivement ouvert à lui donner un essai. Il n'y a rien à perdre là-dessus. T'sais, ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas vu. On ne sait pas trop exactement. Parce que là, c'est plus comme s'il avait 25 ans non plus. Lui donner un essai, je pense que le Canadien a rien à perdre. Je suis pas certain que Andrei Markov va être intéressé à ça, mais s'il est ouvert à cette idée-là, certain que moi, j'y penserais très, très rapidement. Écoute, le Canadien, ils se sont améliorés à la défensive, mais Andrei Markov, c'était tout un défenseur quand il a évolué pour le Canadien. Peut-être qu'il lui reste une ou deux bonnes années en lui. Ça vaut peut-être le coup d'au moins d'y donner un essai.
As-tu l'impression qu'une équipe de la Ligue nationale sera prête à le mettre sous contrat sans passer par l'essai professionnel, Daniel?
Je suis pas encore convaincu. Puis j'ai comme l'impression que Andrei Markov veut revenir à Montréal. Donc je pense j'ai comme l'impression qu'il prendrait. J'ai comme l'impression que c'est pas juste à propos de l'argent maintenant. Il veut revenir, il veut finir sa carrière à Montréal. Donc j'ai comme l'impression qu'il prendrait un essai avec le Canadien avant de prendre un contrat ailleurs. Donc, j'étais le Canadien, là, oui, je lui offrirai un essai. Pour, on le regarde, on voit s'il y a encore quelque chose en lui, s'il y a encore des jambes, puis s'il peut aider le Canadien pour la prochaine saison.
Là, il a embauché l'agent Adam Walsh. Je ne sais pas de quelle façon ça pourra l'aider à rétablir peut-être le dialogue qui semble pas existant avec le Canadien de Montréal. En même temps, est-ce que tu n'as pas l'impression que, soit par orgueil ou tout simplement par jugement de l'évaluation hockey, Marc Bergevin s'empêcherait-il de faire un geste comme celui-là parce que ça aurait tendance à démontrer qu'il n'a pas réussi à le remplacer 2 ans plus tard ou en tout cas que la qualité de sa brigade défensive ne s'est pas tellement améliorée? C'était obligé de rembaucher un gars de 40 ans, non?
Je comprends la question, mais je pense que c'est plus... premièrement, c'est une question de respect pour ce qu'il a donné aux Canadiens dans le passé. Puis s'il est capable d'aider le Canadien, moi je pense pas que Marc Bergevin s'arrêterait à ça. Par contre, il y a une chose, on ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux lors des dernières négociations. Ça n'a pas semblé de tout repos là entre les deux clans, malheureusement. Donc, il y a peut-être des choses qui ont laissé des séquelles où le Canadien veut vraiment rien savoir de le réembaucher. Ça, on le sait pas, on le saura probablement jamais. Mais s'il y avait une possibilité, moi je pense que Marc Bergevin, s'il voit que ça peut améliorer son équipe, je pense pas qu'il s'arrêterait à ça.
Une chose est certaine, le Canadien doit trouver une façon d'améliorer son jeu de puissance cette année. Un gars dont on parle tous déjà ici à Montréal, à l'aube de sa 3e saison avec le Canadien, c'est Jonathan Drouin. Je l'ai rencontré la semaine dernière au tournoi Serge Chavard Invitation. Jonathan, bon, dit toutes les bonnes choses, puis je ne doute pas du tout de ses intentions. Semble qu'il a travaillé sur des séances vidéo, puis je sais qu'il a jasé pas mal avec Dominique Ducharme, qui l'a coaché junior. Mais, tu sais, on a beau regarder ça sous tous les angles possibles, Daniel, si le Canadien va aller en série cette année, ça va être très difficile de le faire sans que Jonathan Drouin améliore sa production offensive, dont notamment peut-être ce jeu de puissance.
Exactement. Que pour moi, c'est une des clés. Tu sais, on sait un peu à quoi s'attendre. Parmi les autres joueurs d'avant des Canadiens, on sait à quoi s'attendre. T'sais, quand on pense à des Max Domi, même à Tatar, je pense qu'il va être encore très, très bon. On sait ce qu'on peut s'attendre des joueurs, mais les pour le Canadien, c'est vraiment Jonathan Drouin. Si Jonathan retourne à ce qu'il nous a donné en deuxième moitié de saison l'année passée, ça va être difficile d'avancer pour le Canadien. Mais si on retrouve un Jonathan Drouin, comme on a vu à ses belles années à Tampa, puis quand il est arrivé à Montréal, je te dirais que c'est possible. Le Canadien pourrait prendre un très, très grand pas vers l'avant.
J'espère que ça va se produire, mais si je te parle de Jonathan, c'est pour revenir sur le jeu de puissance. On parlait de Markov, puis d'un autre joueur de pointe. On a confié, si tu veux, un peu là, le côté quarterback du jeu de puissance à Jonathan Drouin pendant de grands bouts l'an passé. Moi, j'espère qu'on va le ramener en position d'attaquant sur le jeu de puissance cette année, à moins en tout cas qu'il arrive avec quelque chose de nouveau. Je pense qu'on a vraiment tout essayé et ça n'a pas fonctionné. Toi, le vois-tu encore évoluer à la pointe? Moi, j'aimerais autant qu'on donne, à défaut d'avoir mieux, peut-être un essai à Mété, ou même la paire Petrie-Weber, des droitiers, on en voit ailleurs dans la ligue. Je pense, entre autres, à Patrick Laine et Barflin, notamment. Mais ton opinion là-dessus?
Ou essayer un autre joueur d'avant, ce qui est également possible. Mais ça vaudrait sûrement la peine là, d'essayer quelque chose de différent avec Jonathan. Je trouvais qu'il faisait de belles choses en début de saison, mais une fois qu'il a perdu confiance, on voyait qu'il se questionnait beaucoup avec la rondelle. Il prenait pas les mêmes décisions qu'il prenait en début de saison. Donc, pour moi, là, ce qui est le plus important, c'est pas vraiment la position dans laquelle Jonathan va se retrouver, c'est plutôt lui donner la chance de retrouver cette confiance-là là, qu'il avait en début de saison l'an dernier.
As-tu déjà perdu confiance, Daniel?
À plusieurs reprises. C'est pas facile, c'est frustrant. C'est tellement dur à expliquer quand tu perds confiance. D'essayer de se retrouver à travers tout ça, c'est pas facile. Il y en a pour qui ça prend plus de temps que d'autres. Mais il y a pas de clé qui dit OK, bon ben c'est facile, là, efface tout ce qui s'est passé, retourne au joueur que tu étais. Ça fonctionne pas comme ça. Moi, la seule façon que j'étais capable de trouver, c'était de faire du travail d'extra, c'était de rester sur la patinoire, de lancer plus de rondelles. Je me disais toujours quand j'étais en léthargie, je me disais je dois me retrouver plus proche du filet. Parce que, écoute, mon rôle, c'était offensif, c'était de marquer des buts, c'était de créer de l'offensive. Donc, je me disais, si je suis plus proche du filet, j'ai plus de chances à ce que la rondelle me frappe ou qu'il y ait un rebond chanceux. Puis là, ça peut me repartir. Fait que pour moi, c'était un peu là, ce que j'essayais de faire quand les choses allaient mal, quand j'étais dans une léthargie.
Il y en a un qui a perdu confiance il n'y a pas tellement longtemps qu'il l'a retrouvé l'an passé. Puis ça a pris quelques matchs sans aucun doute. Puis c'est notre gardien de but, Carey Price. Il l'avait avoué la saison précédente. Il l'avait même dit à son directeur général. Et il a vraiment relancé, je dirais pas relancé sa carrière. Elle n'était pas en péril, mais il s'est ramené là, un niveau de performance qu'on connaissait de lui. Puis cette année, ben, le gars qui a fini en perte de confiance, c'est Jonathan. Dans quel état d'esprit t'aurais passé ton été si t'avais été dans ses bottines? Puis comment un gars se prépare, peu importe là, que t'aies eu une bonne année ou une moins bonne année l'année passée. Comment tu envisages un camp d'entraînement quand tu es un joueur de hockey professionnel, Daniel? Comment tu te prépares? Puis, t'arrives-tu avec des idées en tête bien précises ou tu y vas comme ça vient?
Ça dépend des situations aussi. Quand tu penses à un gars comme Carey Price qui a connu une belle saison l'année passée, tu essaies de bâtir là-dessus. Tu vas passer du temps à regarder des bons vidéos. Puis ça, c'est bâtir le côté positif des choses, d'avoir des bonnes mémoires dans la tête quand tu te présentes au match puis au camp d'entraînement. Dans le cas d'un Jonathan Drouin, mais lui, c'est totalement le contraire. Tu vas essayer de trouver des explications, trouver des raisons, trouver des façons de changer ton jeu. Des fois, tu retournes plus loin en arrière pour trouver ces questions-là ou ces réponses-là à ton jeu. Donc, c'est complète. Deux approches différentes là, quand tu as une mauvaise saison ou si tu as une bonne saison. Mais une chose qui change pas, c'est le travail en gymnase. Ça, tu peux pas. Si tu coupes des chemins ou tu prends les chemins courts au gymnase, ben là, tu vas payer le prix. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
Un autre sujet, Daniel, es-tu surpris de voir autant de gros noms, joueurs autonomes avec restrictions, là, comme Mitch Marner, Patrick Laney et compagnie, ne pas avoir signé de contrat? Qui joue avec le feu, les joueurs ou les clubs, selon toi?
Ben, c'est une très, très bonne question. Parce qu'il y en a tellement... puis là, les joueurs attendent tous les uns que les autres. Ça, c'est dangereux parce que quand il y en a un qui va signer, ben là, ils vont tous vouloir se comparer à ce joueur-là. Puis ça peut être dangereux parce que le premier qui va signer, il ne signera pas pour des peanuts, d'après moi. Il va signer parce qu'il va avoir eu une très bonne offre. Ça peut être dangereux pour les autres équipes qui ont attendu aussi longtemps avant de signer leur joueur. Fait que je pense qu'en groupe comme ça, les joueurs ont peut-être plus de pouvoir. Mais le temps nous le dira. Puis écoute, j'ai jamais vu ça là, autant d'aussi bons joueurs que ça pas signés en arrivant au mois de septembre. Je pense qu'on n'a jamais vu ça avant.
Une question que je t'ai peut-être jamais posée malgré toutes nos années de collaboration. Est-ce que, de façon directe ou indirecte, un joueur qui est vu comme un joueur là qui va établir des barèmes, est-ce qu'on sent une pression des autres joueurs, des collègues syndiqués ou du NHLPA pour pas signer en bas d'un tel prix, pas signer à rabais, si tu me passes l'expression?
Oui, ben écoute, ces joueurs-là, c'est quand on parle de signer à rabais, là, c'est...
Façon de parler. Il n'y a pas de gros rabais dans la ligue.
C'est ça. Donc, ben oui, peut-être un petit peu, mais les joueurs ne s'arrêteront pas à ça non plus. Si l'offre fait du sens, les joueurs vont la signer ou le premier va la signer quand il va avoir quelque chose là, qui va faire du bon sens. Mais en groupe comme ça, c'est sûr que ça bâtit là, un petit peu plus de, disons, de faire attention aux autres. Tu veux pas ouvrir le marché avec, disons, un mauvais contrat parce que là, tu sais que tu vas affecter les autres joueurs alentour de toi.
Nylander, l'an passé, ça, tu sais, je dis, qui joue avec le feu, l'équipe ou le joueur? On peut-tu s'entendre pour dire que les deux se sont brûlés l'an passé, les Leafs et le joueur? Il a pas connu la saison anticipée. Les Leafs ont manqué de Nylander en pleine confiance. Ils veulent pas revivre le même scénario avec Nylander. Puis les autres équipes qui ont vu ça aller veulent pas vivre ça dans leur cours. Hein? Alors,
totalement en accord avec toi, Mario. Puis je l'ai vécu à quelques reprises au cours de ma carrière. Des joueurs qui se présentaient pas au camp, qui arrivaient une ou deux ou trois semaines après le début de la saison. Puis c'est tellement difficile parce que la coche là est tellement mince entre un joueur de première ou deuxième ligne, puis un joueur qui se retrouve sur le troisième, quatrième trio. Quand tu manques trois, quatre, cinq semaines comme ça, tu manques le camp d'entraînement, tu manques une couple de semaines, c'est dur de retrouver le rythme. Puis on l'a vu avec Nylander, ça lui a pris presque jusqu'à la fin de la saison avant de se retrouver. Puis honnêtement, oui, si j'étais un dirigeant de ces équipes-là, puis à Philadelphie, on en a deux, Provorov et Konechny, moi, ça me fait extrêmement peur pour les joueurs et pour l'organisation également parce que l'équipe va payer le gros prix puis le joueur sera pas capable de livrer la marchandise. Donc, en retour, il va probablement se faire crier des bêtises par les fans. Écoute, c'est une roue qui roule, qui donne pas raison à personne. Donc, non, j'aime pas ça voir ça, moi non plus.
Un dernier sujet en terminant, Daniel. J'ai posé la question à Benoît. Je te la pose à toi aussi hier, Benoît Brunet, parce que vous avez des expériences de vie et des carrières différentes. L'histoire de Kuznetsov avec Washington, bon, qui a eu un test positif à la cocaïne. Tom Wilson qui dit hier, on va s'en occuper, tu sais, we'll have his back. Moi, j'étais curieux de savoir si tu as vu des gars vivre des problèmes de consommation, des problèmes personnels, disons, sans identifier personne. Puis qu'est-ce que ça a provoqué dans une équipe? T'as-tu déjà vu des scénarios où une équipe peut se rassembler autour d'un gars qui a des problèmes personnels, puis ça peut devenir un point de ralliement, ou des fois, ça peut aussi contaminer une équipe?
Ben moi, ce que j'ai vu dans mes expériences, c'est que ça amène plus de problèmes que n'importe quoi d'autre. C'est dur pour tout le monde de s'en sortir. Les joueurs le savent, les autres joueurs qui sont pas dans ce trouble-là, eux autres se demandent pourquoi ces joueurs-là sont pas plus
c'est dur à comprendre.
L'équipe là. Oui, puis ils se donnent pas autant à l'équipe. Donc c'est un peu la question souvent qui revient, c'est des autres joueurs alentour. Ça crée plus de problèmes que d'autres choses. La bonne chose pour les Capitals de Washington, c'est que ce soit arrivé à l'été. Mm-hmm. Donc, tu sais, là, pour Kuznetsov, il a la chance de se reprendre en main. Il a demandé l'aide à l'association des joueurs. Donc, ça, s'il se présente, puis il prend soin de lui, les joueurs vont être beaucoup plus en train à l'aider puis à embarquer avec lui dans la bonne direction, je veux dire, plutôt que de causer des problèmes. Donc, c'est peut-être le point positif là, pour les Capitals de Washington en ce moment.
Oui, c'est sûr que ça doit être plus facile d'aider un coéquipier quand ça vient d'arriver ou que c'est ponctuel, plutôt que d'aider un coéquipier qui semble être pris là-dedans depuis plusieurs saisons. Là, peut-être que tu as le pardon moins facile ou la compréhension est plus difficile à trouver. Daniel, c'est tout le temps qu'on a. Un gros merci d'avoir brisé la glace pour la saison 2019-2020. Je te dis à très bientôt parce que là, ben la machine est vraiment repartie.
Ben oui, parfait. Je suis bien hâte. Bien content de repartir une nouvelle saison de hockey. Ça m'excite.
Parfait, Daniel. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt.
À bientôt. Salut, Mario.
Salut.